Mes chers amis du gratin, bonjour, ici Pauline Aignot et vous êtes sur une nouvelle leçon du gratin. Alors qu'est-ce que c'est que ces leçons du gratin? Des fameuses leçons où je réponds à vos questions sur des sujets variés autour de l'entrepreneuriat, du business, du marketing, des RH, des réseaux sociaux, Instagram, etc. Aujourd'hui, on va parler levée de fonds, on va parler financement avec Lise. Lise qui est en train de se lancer dans l'aventure du financement et elle me pose une question assez intéressante. J'ai trouvé, qui j'espère parlera à de nombreux d'entre vous. Elle me demande, aurais-tu Pauline des conseils avisés? Alors avisés, je ne sais pas, mais en tout cas des conseils concernant la levée de fonds. À savoir concrètement, est-ce qu'elle n'occasionne pas une trop importante dilution au fur et à mesure des tours de table? Comment est-ce qu'on s'organise en pratique? Quelles sont les erreurs à éviter? Etc, etc. On a passé un bon moment avec Lise à expliquer déjà tous les modes de financement possibles, et notamment celui de la levée de fonds, à parler effectivement des erreurs à ne pas commettre, à parler concrètement de comment elle s'organise, comment elle a réalisé, mais également de comment ça s'était passé pour moi dans le cadre de Gémio. Je pense avoir livré dans cet épisode un certain nombre de conseils dont j'avais jamais vraiment parlé, parce que finalement j'avais peu abordé le sujet du financement ici sur le podcast, et je pense que ça pourra être utile à certains d'entre vous. N'hésitez pas à me le dire d'ailleurs dans les commentaires, soit sur Instagram, sur LinkedIn ou pourquoi pas en avis sur Apple Podcast. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon du gratin. Allô Lise ?
Oui, allô Pauline ?
Salut Lise, c'est Pauline, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur cette leçon du gratin. Est-ce que tu peux, s'il te plaît Lise, commencer par te présenter s'il te plaît et puis ensuite me dire quelle est ta question, qu'est-ce qui t'amène sur le podcast ?
D'accord. Eh bien, écoute, Pauline, tout d'abord, je suis ravie d'être avec toi sur le podcast parce que c'est vraiment quelque chose que je suis activement et qui est vraiment très utile.
Cool.
Donc, moi, je suis Lise, je suis sage-femme. Et en fait, là, on est dans une phase de conception d'une application en e-santé pour la santé des femmes, plus particulièrement axée femmes enceintes, comme c'est un secteur qu'on connaît bien avec des collaboratrices. Et du coup, il y a notamment la question du financement, en fait, de tout ce qui est innovation et encore plus en innovation en santé. Donc c'est pour ça que j'ai pris contact.
Des financements très lourds. Et alors, du coup, quelle est ta question spécifique? Comment se financer?
Et bien, la question, effectivement, c'est un petit peu ça. C'est comment se financer? Parce que c'est vrai que, bon, c'est un sujet que j'ai un petit peu découvert. On voit pas mal de choses. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... on met beaucoup en avant les succès des levées de fonds, des startups qui lèvent tant de millions, etc. Après, il y a aussi la question l'envers du décor. Quand on lève des fonds, on dilue ses parts. Ça implique des enjeux de gouvernance de l'entreprise. Donc en fait, c'était un petit peu ces questions-là. Est-ce que toi, tu avais un retour d'expérience? Et puis, qu'est-ce que tu conseilles aux personnes en termes de financement? Comment faire? Alors, l'idéal, j'imagine que c'est plus se financer sur les fonds propres dans la mesure du possible.
Ou avec ça, c'est sûr.
Des fonds non dilutifs. Mais, et puis aussi, mon autre question, donc ça fait beaucoup, mais je pense que tu répondras après, c'est on parle très peu des startups qui échouent. Et comment ça se passe quand on a fait des tours de table ou qu'on a levé des fonds et qu'en fin de compte, ça ne marche pas? On ne lit pas beaucoup de choses à ce sujet-là. Et enfin, voilà, du coup...
Eh ben écoute, hyper intéressant. Ce que je peux te dire, c'est effectivement, pour commencer par les premières questions qui sont un peu spécifiquement sur la levée de fonds. La levée de fonds, c'est très bien et ça a plein d'atouts. C'est une forme de financement très intéressante, mais c'est pas non plus une panacée. Tout dans la vie vient avec des compromis, c'est évident. Et en l'occurrence, la levée de fonds, c'est souvent pas mal d'argent. C'est de l'argent, en fait, qu'on n'a pas besoin de rembourser. Donc ça, c'est quand même assez incroyable quand on y pense, par rapport à un prêt bancaire, par exemple, où on a des taux d'intérêt et en plus on doit rembourser. Mais à l'inverse, comme tu l'as dit très justement, c'est dilutif. Ce que ça veut dire concrètement pour les personnes qui nous écoutent et qui comprennent pas, ça veut dire que vous avez des personnes qui mettent une certaine somme d'argent et qui vous la confie en échange de quoi ils achètent concrètement des parts de votre entreprise à une certaine valeur qui s'appelle une valorisation. Ça, je schématise énormément, mais globalement, c'est ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces personnes-là, ça devient vos actionnaires. Donc, ça veut dire que vous n'êtes plus seul maître à bord de votre entreprise. Au début, quand tu crées ta ta boîte, si t'es seul, t'as 100% du capital. Si t'as un associé, ben, tu peux diviser le capital en deux. Ça peut être 50-50, ça peut être 30-70, quelque chose comme ça. Et si en plus, après, tu as des actionnaires, ben, mettons que t'avais 50% du capital parce que t'avais un associé à 50-50, ben, en gros, votre capital à tous les deux va être dilué par les personnes qui ont mis de l'argent dans l'entreprise. Et donc, tu vas te retrouver, je sais pas si t'es dilué à hauteur de 30%, ben, ça veut dire que tu vas te retrouver à moins 30% de tes 50%. Donc là, je vais pas faire le calcul du tête parce que je suis nulle en calcul mental, mais globalement, tu as moins de parts. Et donc, c'est clair que c'est hyper impliquant parce que au-delà du fait que tu as moins de parts, ce sont des personnes, en fait, qui ont vraiment un droit de regard, et c'est à la fois bien et pas bien, sur ton entreprise. Donc concrètement, ça veut dire que tu vas probablement avoir des comptes à rendre sous forme notamment d'un board, donc ça veut dire un comité, si tu veux, d'actionnaires qui va prendre certaines décisions, qui va devoir voter sur certaines décisions. Donc par exemple, ces décisions, ça peut être des choses comme les rémunérations des dirigeants, donc c'est quand même assez important de le savoir. Ça peut être en cas de vente, par exemple, si jamais vous avez un acheteur potentiel, ben en fait ils peuvent avoir un droit de regard dessus. Ça peut être sur certaines embauches au-dessus d'un certain salaire aussi, ils peuvent avoir un droit de regard dessus. Voilà, donc il y a énormément de choses qui sont stipulées. Et ces personnes-là vont avoir un droit de regard dessus. Ce droit de regard, en fait, tout ça est explicité dans quelque chose qu'on appelle un pacte d'actionnaire, qui est en fait un espèce de contrat, si tu veux, qu'on signe au moment de la levée de fonds, où globalement, bah, on se met d'accord sur tous les termes possibles et imaginables. Et là, petit aparté mais important, en gros, cette partie-là, elle est extrêmement complexe à gérer pour un jeune entrepreneur, parce qu'en fait, il y a plein de termes techniques, c'est très juridique, et il y a beaucoup d'écueils dans lesquels on peut tomber quand on s'y connaît pas trop, qu'on a peu d'expérience, parce qu'en fait, il y a tellement de clauses possibles et imaginables, et en fait, les actionnaires, les avocats veulent tous, évidemment, que tous les cas de figure possibles soient envisagés, que du coup, c'est pas très facile de se prémunir contre ça. Donc, conseil d'amis, si vous vous lancez dans une levée de fonds, prenez un bon avocat spécialisé dans les levées de fonds, parce qu'on peut être bon avocat en droit des affaires générales, mais pas forcément spécialisé là-dedans, et c'est important de connaître les clauses qui vont bien. Grosse fermeture de parenthèse, mais du coup tout ça pour dire que, comme tu l'as parfaitement dit Lise, c'est pas parce que la levée de fonds ça permet de l'avoir de l'argent frais d'une manière assez facilement, si je puis dire, que ensuite derrière, si tu veux, il n'y a pas quand même des réalités, des compromis qui sont que bah voilà, t'es pas seul maître à bord. Après, ça ne veut pas dire que ces gens-là sont pas des gens bien. Il y a des fonds qui sont super, il y a des fonds qui vont refinancer l'entreprise, il y a des fonds, tu vois, qui vont en plus apporter des conseils, par exemple, pour développer l'activité. Mais ça, c'est comme n'importe quel partenariat, si tu veux, ça dépend des personnes, ça dépend de votre fit, ça dépend de comment t'entretiens la relation. Donc, je dirais que c'est extrêmement variable en fonction de chaque cas de figure, mais du coup il faut bien l'avoir en tête et pas se dire c'est bon, j'ai levé de l'argent, merci, au revoir. C'est pas du tout comme ça que ça se passe, bien au contraire, parce que il y a une réalité quand même, c'est que les fonds, si tu veux, ils sont quand même là pour gagner de l'argent, ils le font pas par gaieté de cœur ou pour te faire plaisir. S'ils mettent de l'argent, c'est qu'en fait eux-mêmes ils veulent que ça soit rentable, parce que la manière dont ça se passe, c'est qu'un fonds lui-même lève de l'argent, c'est pas leur argent à eux, auprès d'autres investisseurs, en général des investisseurs plus importants comme par exemple la Caisse des dépôts. Et du coup cet argent, il faut qu'il soit placé avec une certaine rentabilité. Et donc ils vont pas mal mettre la pression quand même, il faut le dire, aux entrepreneurs, pour que l'entrepreneur, en fait, il fasse en sorte que son entreprise, elle marche, quoi, et que ça fasse du chiffre d'affaires. Et donc, il y a tout un certain nombre de biais quand même assez fréquents, qui sont que les actionnaires VC, c'est-à-dire de levée de fonds, de ce qu'on appelle le capital risque, le venture capital, quand même, on va dire, poussent, et c'est tout à fait normal, hein, les entrepreneurs à dépenser pas mal pour faire un maximum de chiffre d'affaires. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que quand tu t'engages dans une levée de fonds, c'est à la fois très, très utile, parce que ça peut te permettre de financer beaucoup ton entreprise. Et donc, je dirais, pour te donner un conseil peut-être concret, Lise, que si jamais tu penses que pour toi, lâcher du capital n'est pas trop un problème, je veux dire psychologiquement, tu vois, que t'es OK à l'idée d'avoir d'autres personnes décisionnaires que toi dans l'entreprise, et parfois, sincèrement, en fonction du nombre de levées de fonds qui font, faut réaliser que les gens qui lèvent beaucoup d'argent, qui lèvent 50 millions, souvent ne sont plus majoritaires, enfin... C'est-à-dire qu'en fait, ils deviennent d'une certaine manière pas des employés, mais bon, ils sont actionnaires de l'entreprise, tu vois, ils sont managers, mais ce ne sont plus propriétaires de l'entreprise. Et donc ça, faut quand même l'avoir pas mal en tête. Et du coup, la question, c'est un, est-ce que tu préfères, toi, avoir le contrôle ou avoir du cash? C'est la première chose, du cash dans l'entreprise, hein, c'est pas forcément dans ta poche. Deuxième question qu'il faut se poser, c'est est-ce que tu penses que ton business est un business qui a vocation à nécessiter beaucoup de financement, auquel cas la levée de fonds est effectivement probablement utile parce que c'est comme ça que tu vas avoir le plus de financement, les plus gros volumes si tu veux, de la dette ou de l'autofinancement. Bah, en général, quand même, c'est des sommes qui sont plus petites, il faut le savoir. Ça, c'est la deuxième question importante. Et troisièmement, est-ce que la vitesse est un argument important pour ton business? C'est-à-dire, par exemple, est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence qui est en train d'arriver, etc. Parce que là aussi, la levée de fonds, comme elle permet d'avoir beaucoup de cash d'un coup et assez vite, permet globalement d'aller plus vite dans l'exécution de son business ou en tout cas dans la dépense. Et donc c'est aussi, si tu veux, un critère de choix important. Si ces trois critères de choix-là font que, du coup, tu t'orientes vers la levée de fonds, bah, tant mieux, tu vois, c'est top et je le recommande vraiment. Mais par contre, souvent, l'erreur que font les gens, et moi, mon rôle, c'est de vouloir, d'une certaine manière, éduquer, tu vois, les personnes qui savent pas trop où se placer. Si à l'inverse, le contrôle pour toi, c'est important parce que c'est ton projet de vie, que tu veux vraiment faire quelque chose dans lequel tu vas travailler pendant longtemps, que tu y crois à fond et que vraiment tu te projettes sur des années, la levée de fonds, je te la recommande pas forcément parce qu'en fait, c'est comme si tu veux, plutôt que de vouloir habiter dans ta maison, bah, en fait, tu donnais ta maison à quelqu'un et t'es plus que locataire, quoi. Donc, d'une certaine manière, tu peux te faire éjecter un peu quand tu veux, quand ils veulent. Donc, faut quand même le visualiser. Et d'autre part, ça dépend aussi, effectivement, pas de l'ambition de ton projet, mais si tu penses que ton projet n'est pas un projet qui nécessite d'aller très très vite, quand je dis très très vite, c'est vraiment à l'échelle de quelques années, tu vois, d'avoir beaucoup d'argent, eh bien à ce moment-là, la levée de fonds est peut-être pas la meilleure option et il vaut mieux effectivement que tu passes par de l'autofinancement ou pour de la dette bancaire. Après, il y a toujours un gradient, je parle beaucoup, je suis désolée, dans cette histoire, qui est qu'il y a levée de fonds et levée de fonds. Il y a levée de fonds avec des fonds d'investissement, ce dont je parlais, et là, tout ce que j'ai décrit, c'est beaucoup ça, mais il y a aussi des levées de fonds auprès de famille et d'amis, ce qu'on appelle le love money, souvent, dans le jargon, parce que ce sont donc des êtres chers, des êtres aimés qui nous donnent cet argent, contre des parts aussi, mais on peut penser que comme c'est des personnes qu'on connaît, ils le font aussi, on va dire, par amitié, par soutien, et donc il y a moins d'enjeux, si tu veux, de contrôle et de pousser l'entrepreneur dans des zones qui vont le mettre en difficulté, comme ça peut être le cas parfois pour un fonds. Donc ça peut être une option intéressante qui permet pas de lever autant d'argent en général, à moins que t'aies Bernard Arnault dans ta famille. Mais en revanche, qui a un avantage, c'est que ça peut être assez rapide et ça te permet de te diluer un peu, mais tout en gardant en général pas mal de contrôle. Je sais pas si ce petit overview déjà te paraît clair, si ça te donne un peu quelques pistes par rapport à tes problématiques.
Si, complètement. C'est vrai que on lit, on voit pas mal de choses, mais d'avoir un regard critique et sur tout ça. Et effectivement, en fait, ce que tu soulèves, c'est que en premier lieu, faut vraiment être au clair sur ce qu'on veut financer, à quelle vitesse.
Exactement.
Et en fait, c'est des choix qu'on doit faire soi d'abord, en fait. Enfin...
Et c'est pas évident, je te l'accorde, quand on est jeune entrepreneur, qu'on l'a jamais fait. Et tu vois, moi, par exemple, j'ai fait des levées de fonds avec Gemio, avec mon mari, on a fait 4 levées de fonds. Du coup, j'ai pas craché dans la soupe et dire que c'est de la merde. Et je pense que, sincèrement, que Gemio ne serait pas là où on est aujourd'hui si jamais on n'avait pas fait ces levées de fonds. Parce qu'en fait, ça nous a permis d'investir dans la marque, dans l'entreprise, dans la fabrication. Mais à l'inverse, je vois aussi les limites de certaines levées de fonds qui sont que, déjà, ça prend beaucoup de temps de les faire et que d'autre part, on s'est dilué. Alors nous, on a eu une chance, c'est que l'entreprise fonctionne bien et que du coup, on a pu racheter pas mal de parts qu'on avait perdues à un moment donné. Donc, on est majoritaire. Mais tu vois, c'est pas le cas de beaucoup d'entrepreneurs. Et à un moment donné, dans l'histoire de Gemio, on n'avait plus la majorité. Donc, officiellement, on était dirigeant, mais on n'avait plus le contrôle. On n'était plus propriétaire, si tu veux. Et c'est vrai que travailler autant quand tu sais que t'es plus propriétaire, ça peut fonctionner, mais il faut le vouloir. Et donc c'est vraiment une question assez personnelle. Nous, Gemio, c'est une entreprise où en fait on sait qu'on va y travailler encore, je pense, très longtemps. Enfin, c'est vraiment un projet, tu vois, assez à l'échelle d'une vie, je pense, de créer une marque de joaillerie. Et donc typiquement, même si la levée de fonds a été très utile au début parce qu'elle nous a permis de nous financer, il y a une réalité aussi, c'est que quand tu sais que tu vas y passer beaucoup de temps, t'as quand même plutôt envie que ça t'appartienne. Tu vois, c'est un peu comme pareil. Je reprends l'image de la maison, c'est que si tu sais que t'adores cette maison, que vraiment, mais c'est la maison de tes rêves, que tu as envie d'y rester, t'as pas forcément envie de pouvoir te faire éjecter une fois de plus si jamais il y a un meilleur bidder à côté, quelqu'un qui va payer un loyer plus cher, tu vois. Et c'est un peu ça quand même quand tu fais des levées de fonds. C'est que globalement, le fonds, s'il y a mieux ailleurs, il va pas forcément te soutenir. Donc il faut faire attention à ça et je pense qu'il faut se poser cette question avec beaucoup de lucidité sur sa propre personnalité. Est-ce que tu es, tu vois, d'un naturel, je pense, agressif. Quand je dis agressif, c'est au sens avec beaucoup d'ambition, mais vouloir aller très très vite, un peu quand même après moi le déluge, au sens où, et je veux pas paraître dévalorisante hein, parce que c'est aussi très bien, mais tu vois, vraiment vouloir faire beaucoup de chiffre d'affaires, et sincèrement la rentabilité c'est pas tellement ton souci, peut-être que t'en sais rien à ce stade, mais bon, c'est une question qu'il faut se poser. Ou est-ce que à l'inverse tu préfères, t'es plutôt quelqu'un d'un peu plus consciencieux, tu veux faire les choses bien, tu crois à la patience, tu préfères construire les choses dans le temps, et auquel cas, franchement, je ne te conseillerais pas de passer par une levée de fonds.
D'accord.
Donc, je pense que c'est ça la question fondamentale. Après, y a, comme je le disais, un gradient dans cette histoire qui est que la levée de fonds là dont je parle, c'est de la levée de fonds avec un fonds d'investissement. Donc, ce sont des professionnels qui sont là pour gagner de l'argent, même s'ils sont là pour accompagner des entreprises, hein, mais ils le font quand même pour la rentabilité de leur fonds. C'est pour ça que je te disais que si jamais tu as des besoins concrètement de financement rapide sur des sommes, tu vois, je vais dire 100 000 euros, 200 000 euros, peut-être 300 000 euros, donc des sommes qui sont importantes mais qui sont pas non plus inabordables, à ce moment-là, tu peux, dans un premier temps en tout cas, tu peux envisager, par exemple, tu peux envisager ce qu'on appelle des levées de fonds avec du love money, c'est ce que je disais, c'est-à-dire par exemple de passer par ton cercle élargi de famille et d'amis. Alors tu vas me dire, mes amis, ils ont pas 300 000 euros. Non, mais par contre, si tu as 10 personnes qui met chacun 10 000 euros, bon, bah, t'arrives déjà à 100 000, tu vois. Et du coup, ça, pour le coup, ça devient beaucoup plus accessible. Alors, je te cache pas que ça peut devenir compliqué à gérer a posteriori, puisqu'ensuite, il faut que tu dises que toutes ces personnes sont tes actionnaires. Il y a pas mal de boîtes qui existent où parfois il y a 50 actionnaires dans l'entreprise. Et ça, bah, en fait, c'est du travail, parce que c'est des personnes qui posent des questions, qui parfois ont des soucis administratifs. Je sais pas, ils doivent changer telle ou telle, enfin, leurs actions doivent changer de forme parce qu'ils changent de pays, enfin, peu importe. Des détails, tu vois, un peu administratifs bêtes et méchants, mais qui en fait retombent souvent sur le dos de l'entrepreneur qui doit les aider à gérer. Et donc, il faut visualiser quand même que si tu as 50 actionnaires, c'est du boulot. Mais à l'inverse, l'avantage, c'est que tu les contrôles un peu plus, parce que souvent, ce sont des personnes, tu vois, qui l'ont plus fait, entre guillemets, pour te faire plaisir. Et donc, ça peut être une solution intéressante. Si tu choisis ça, je te conseille juste d'essayer au maximum de limiter le nombre d'actionnaires à, tu vois, mettons une vingtaine, parce que sinon, franchement, ça peut devenir assez chronophage.
Effectivement. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Après, c'est vrai que le love money, on le voit beaucoup aussi, mais dans le concret, je ne sais pas si ça se fait aussi facilement de pouvoir aller convaincre 10, 20 personnes.
Bah, tu vois, nous, pareil, pour te parler de l'exemple de Gemio, on a commencé nos deux premières levées de fonds, c'était du love money. Hein. C'est seulement notre troisième levée de fonds, on est allé avec un fonds d'investissement. Les deux premières levées de fonds, c'était des personnes qu'on connaissait pour la plupart assez peu, amis d'amis, tu vois, des personnes qu'on avait rencontrées une fois. Faut se creuser la tête, hein, être un peu créatif, se dire, mais quel entrepreneur j'ai déjà croisé dans ma vie qui est un entrepreneur que j'aimerais avoir à mon board parce que je pense que ses conseils pourraient être intéressants, et à ce moment-là leur proposer d'entrer au capital, donc en leur donnant le prix, hein, et en leur disant, bah voilà, j'aimerais, il me faut, enfin voilà le prix total qu'on souhaite lever, combien est-ce que vous êtes prêt à mettre, en leur pitchant le truc. Bon, après c'est une autre histoire, et si jamais t'arrives à le faire, bah tu peux réussir à avoir des personnes, et nous c'était le cas chez Gemio, sincèrement, qu'on avait jamais rencontré avant, parce que t'en connais un qui va te présenter à un autre, qui va te présenter à un autre, et du coup tu finis par trouver une quinzaine, une vingtaine de personnes comme ça qui ont envie de se lancer dans l'aventure avec toi. Donc c'est tout à fait possible de le faire. C'est du travail comme tout, c'est du travail de lever de fonds et ensuite à gérer, mais en revanche je te dis, ça a pas mal de bénéfices, parce que comme c'est des personnes qui sont moins professionnelles, elles sont aussi, il faut le dire, moins exigeantes sur les process ensuite, par exemple de reporting, etc. Et puis surtout, c'est des personnes qui peuvent apporter d'autres valeurs ajoutées assez intéressantes, stratégiques. Si par exemple, tu arrives à avoir quelques entrepreneurs dans le secteur, tu vois, qui t'intéressent, bah, ça peut être aussi des conseils, tu vois, et ça peut mêler l'utile à l'agréable d'avoir des personnes qui à la fois sont impliquées financièrement dans l'entreprise. Du coup, ils ont aussi des choses à gagner, tu vois, en faisant en sorte que ça marche. Et en même temps, s'ils ont des conseils pertinents à donner parce qu'ils ont une expertise, bah, du coup, c'est top. Et nous, on a, j'ai déjà invité sur le podcast, par exemple, Justin Ziegler et François Rousseau, que je salue ici, qui sont deux de nos premiers actionnaires qui sont venus au premier tour de table Gemio. Donc c'était quand même en 2011, et ils ont mis chacun un peu d'argent, pas des sommes mirobolantes, mais c'était déjà très bien, et ils nous ont accompagnés. Ça fait maintenant 10 ans qu'ils nous accompagnent et qui sont actionnaires de l'entreprise, qu'ils ont remis au pot, et surtout qui nous conseillent, si tu veux. En plus, c'est pas juste des gens qui, c'est pas des chèques, tu vois, c'est pas de l'argent juste sur pattes, c'est des gens en plus qui apportent de la valeur. Et donc c'est pour ça que le love money, de ce point de vue-là, est assez intéressant.
Oui, c'est ça. C'est que ce que j'ai pu comprendre aussi, c'est qu'il ne faut pas se limiter au fond qu'on va lever. En fait, c'est la relation qu'il y a derrière aussi qui va être intéressante et qu'il faut évaluer pour voir ce qu'il peut y avoir aussi en échange, comme tu le dis, des conseils, une vision un peu partagée qui permette d'aller dans le même sens et qu'on part pas avec des visions opposées, même si on lève des fonds. Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre.
Ouais, complètement. Bah, si t'arrives à avoir quelques personnes peuvent ne pas, entre guillemets, apporter trop de valeur d'expertise parce que, voilà, c'est pas grave. Mais si tu peux en avoir quelques-uns qui ont une certaine expertise dans ton domaine, une expertise marketing, une expertise technique, une expertise santé, franchement, ça peut être hyper enrichissant parce que du coup, tu peux beaucoup plus facilement te permettre de les appeler un peu comme des mentors parce qu'en fait, eux-mêmes ont intérêt, si tu veux, à ce que ta boîte, elle marche. Si jamais ils ont mis de l'argent dedans, bah, en fait, ils ont tout intérêt à ce que la valorisation de l'entreprise, le chiffre d'affaires, ils augmentent. Donc, du coup, c'est gagnant-gagnant.
D'accord. Et du coup, vous, sans indiscrétion, par rapport au développement de Gemio, quand vous avez décidé de faire des levées de fonds, donc tu m'as dit, il y a eu le Love Money, et puis après, il y a eu via un fonds d'investissement, c'est des décisions que vous avez prises strictement entre vous ou c'est mieux de se faire accompagner un cabinet d'avocats ou
Alors, il y a plusieurs choses. Les décisions stratégiques, on les a prises entre nous, donc entre fondateurs au début, et puis ensuite, d'ailleurs, on en a parlé avec nos actionnaires. Donc, typiquement, Justin et François étaient complètement impliqués quand on a pris la décision de lever des fonds avec un fonds d'investissement, parce que, ben, du coup, c'était aussi leur boîte hein, à ce stade. Et du coup, d'ailleurs, c'est eux, pour tout dire, qui nous ont mis en relation avec le fonds. Donc, comme quoi, c'est vraiment vertueux d'avoir un réseau dès le début. Et donc, ça s'est très bien passé, et c'était une décision vraiment collégiale. En revanche, concernant ton deuxième point, donc à savoir sur l'accompagnement, ça, c'est pas les actionnaires, si tu veux, qui vont t'accompagner. Il faut clairement avoir des avocats et je conseille quand même, comme je le disais précédemment, que ce soit dans le cadre d'une levée de fonds avec un fonds, mais même avec des business angels, de rédiger ce document qui est si important, qui est le pacte d'actionnaires, avec des avocats spécialisés dans le monde, on va dire, des startups et des levées de fonds, parce que une fois de plus, c'est pas parce qu'un avocat est très bien, ton avocat généraliste pour des litiges, des choses diverses et variées, qui va connaître les termes techniques et détailler, si tu veux, d'impact d'actionnaire. Donc là-dessus, je te recommanderais beaucoup plus de passer par des gens vraiment spécialisés dans le domaine. L'avantage, c'est que si jamais tu lèves de l'argent avec des business angels un peu aguerris, bah, en fait, ils vont pouvoir te donner plein de noms, tu vois, de personnes avec lesquelles ils ont l'habitude de travailler et qui bossent bien sur ce sujet.
D'accord.
Donc ça peut être une bonne option, mais surtout, erreur à ne pas commettre, prendre le même avocat que ton fonds ou que tes actionnaires parce que du coup, bon, tu peux imaginer qu'il y a un petit peu de...
Il y a un petit peu de biais. Le même avocat que la personne contre qui tu es en justice, quoi.
C'est un peu ça. Même si les gens sont bien intentionnés, malgré tout, tu vois, il y a forcément des biais. Exactement. Bah écoute, j'espère que ça t'a un petit peu aiguillé. Sincèrement, je pense qu'il y aurait vraiment encore beaucoup, beaucoup plus de choses à dire dessus. Donc peut-être qu'on en reparlera un peu plus tard quand tu auras avancé dans ton cheminement. Mais en tout cas, pour résumer, au-delà des détails techniques qu'on évoquait, je pense que la vraie question fondamentale, c'est la question du mode de financement, mais qui est, si tu veux, à une stratégie presque de vie, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, toi, comment est-ce que tu vois le développement de cette entreprise? Il faut en parler avec ton associé si tu en as un, évidemment, parce que là-dessus, il faut que vous soyez 100% alignés, sinon je peux te dire que ça peut faire vraiment des clashs. Et donc, une fois que vous aurez décidé ça, ensuite, en ton âme et conscience, tu pourras beaucoup plus facilement décider s'il faut que tu t'orientes vers de la levée de fonds avec un fonds d'investissement ou à l'inverse, s'il faut prendre les choses un petit peu plus lentement, mais aussi de manière avec plus de contrôle, en passant soit par de la dette bancaire, dont on n'a pas parlé, mais pour une autre fois, ou avec éventuellement de la levée de fonds, mais par Love Money.
Ok, super. Bah écoute, merci beaucoup, Pauline. Après, je sais pas si, c'est peut-être ça peut faire l'objet d'un autre podcast, mais je me demandais aussi en cas vraiment d'échec de start-up, parce que il y en a un certain nombre qui échouent, dont on parle peut-être pas beaucoup. Et ben, comment ça se passe dans ces cas-là?
Bah écoute, c'est difficile de te répondre précisément parce qu'en fait c'est très variable en fonction justement du pacte d'actionnaire.
D'accord.
En général, ce qui se passe, c'est que justement dans le pacte d'actionnaire, il y a précisément des clauses qui vont déterminer qu'est-ce qui se passe si la boîte est en liquidation. En général, pour te la faire courte, ce qui se passe, pour un petit peu dévoiler, si tu veux, les choses, la triste réalité, mais c'est normal aussi, c'est que ceux qui sont privilégiés, ce sont les personnes qui ont mis de l'argent, donc ce sont les investisseurs. Et ça, ça se fait, en fait, il y a des niveaux, si tu veux, de préemption. Et en général, les derniers, ceux qui ont mis à la valorisation la plus importante, sont ceux qui récupèrent leur argent en premier. Donc, ça veut dire que si tu as fait plusieurs levées de fonds, en général, la dernière levée de fonds, les gens qui ont mis, tu vois, si par exemple l'entreprise elle est un peu revendue quand même pour une bouchée de pain, bon bah le peu d'argent qui aura été là ou le cash qui reste dans l'entreprise par exemple ou la vente des stocks, tout ça va revenir aux derniers actionnaires, ensuite à ceux d'avant, ensuite à ceux d'avant. Et malheureusement, les fondateurs en général se retrouvent en dernier.
D'accord.
Voilà. Mais bon, c'est, je te dis au cas par cas en fonction de, oui, en fonction oui, du pacte d'actionnaires.
D'accord, très bien.
Bon, bah écoute, Lise, en tout cas, j'espère que ça t'a aidé un petit peu. Et puis, peut-être qu'on se reparlera quand t'auras avancé pour une prochaine leçon sur d'autres sujets autour du financement.
Eh bien, écoute, merci beaucoup, Pauline, avec plaisir. Merci pour tous ces conseils pragmatiques et pour ton expertise et pour le partage de toute ton expérience sur le sujet.
Eh bien, écoute, avec grand, grand plaisir. Merci à toi, Lise, et je te dis à bientôt.
À bientôt, Pauline.
Et voilà, terminé pour aujourd'hui. Un grand, grand merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que le format vous a plu. Si oui, dites-le moi avec 5 étoiles ou même un petit commentaire sur l'application iTunes. Et puis si iTunes, c'est pas votre truc, si Apple, vous n'avez pas envie d'en entendre parler, c'est pas grave, vous inquiétez pas, il y a d'autres moyens de m'aider. Vous pouvez tout simplement en parler autour de vous. Prenez 2-3 amis et puis diffusez-leur le podcast. Moi, ça m'aide énormément et qui sait, ça les aidera aussi peut-être. Quoi qu'il en soit, merci pour votre temps. N'hésitez pas à postuler aussi à la leçon du gratin si l'idée de passer sur le podcast vous intéresse. Donc à vous de jouer et bientôt pour une nouvelle leçon du gratin.